les élixirs de la loutre. À commander et à découvrir vraiment les élixirs de la loutre.ch, des produits d'Hippocras, que ce soit du vin rouge, du rosé ou du blanc, et puis aussi des sans-alcool. Dernière chose.
Exactement, oui. J'ai lancé une gamme du coup d'Hippocras sans alcool, donc sur ce même principe, mais une base de jus de raisin avec ses macérats d'épices. La pas de miel, bien sûr, parce que le jus de raisin va être assez doux. Et vraiment, c'est quelque chose qui manquait et il y a un très très bon retour.
Et puis, il y a de quoi faire dans la gamme avec modération et puis sans modération pour le sans alcool. Merci beaucoup, Émilie Cornet.
Merci infiniment.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.
C'est chaud. Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le top du top sur Radio Chablais.
Bon alors là, attention mesdames, messieurs, parce qu'il y a un moment d'anthologie qui arrive. Bonjour Pierre, bienvenue.
Bonjour, merci. D'abord, un petit clin d'œil dans un journal, sur la première page du matin de ce mardi 18 juin 1991. Les lecteurs découvrent une photo sur laquelle on voit un couple d'Orlando en Floride en train de faire du ski nautique. Jusque-là, rien de particulier. Sauf que Randy et Robbie Messer avaient formé leur chiot à l'art du ski nautique et la chienne Jessie, âgée de 5 ans en 91, n'a aucune peine à accompagner ses maîtres sur les vagues. Voilà. Si ça vous intéresse, retournez sur la page du matin.
Je suis toujours pas capable d'en faire du ski nautique, donc j'ai un peu honte.
Ah oui, non, mais elle a quatre pattes quand même, hein, la chienne. Et le titre qui cartonne ce mardi-là à la radio est interprété par Mylène Farmer, Désenchantée, le titre qui reste à ce jour son plus gros succès. Alors, retour sur le contexte de l'époque. À la fin de sa première tournée qui a eu lieu en 89, et bien qu'elle ait été avertie, Mylène Farmer est déstabilisée. Beaucoup d'artistes connaissent des passages à vide. Elle connaît une période durant laquelle tout paraît vide, tout paraît vain. Elle décide de se plonger dans la lecture et tombe sur le livre « Sur les cimes du désespoir » d'Émile Cioran, qui l'inspire. S'ensuivent l'écriture et l'enregistrement de son nouvel album, « L'autre ». Parmi les chansons figure « Désenchanté ». L'artiste y propose un texte sombre sur cette perte d'illusion permanente, mais porteur d'un espoir, d'un message semblant inhabituellement universel pour la chanteuse. De son côté, le compositeur, Laurent Boutonnat, compose les premières notes chez lui, mais il a de la peine avec cette chanson. Il ne trouve pas les bons arrangements et envisage même de tout jeter à la poubelle. Finalement, il arrive à ses fins, dépose le morceau à la SACEM et Mylène enregistre le titre. Mais Boutonnat n'est toujours pas satisfait. Il paraît qu'après l'enregistrement de la troisième version, il claque la porte du studio et s'en va. La chanteuse et son ingénieur du son sont désemparés. C'est ce dernier, Thierry Rojan, qui a l'idée de rajouter des cuivres à la musique. Le lendemain, le compositeur écoute cette nouvelle version et cette fois-ci, il achète, comme on dit. La chanson sort le 18 mars 91 et dévoile également une Mylène Farmer aux cheveux courts. Mais ça, c'est une autre histoire. Désenchantée. Le titre Désenchanté, interprété par Mylène Farmer, est un titre au top des ventes de singles en France pendant 9 semaines, du 3 mai au 4 juillet 1991. Nombreux sont ceux qui vont attribuer un sens politique à ce titre. En effet, la chanson sort alors que la France traverse une période de grande morosité. On parle beaucoup des déçus des années Mitterrand. Et pour Laurent Boutonnat, le compositeur, la portée de ce titre est bien plus large. Il dit, je cite, « Désenchanté est un coup de projecteur sur une génération en mal de futur ».
Et voilà. C'est une génération dans laquelle on s'est senti.
On se reconnaît.
Ah, clairement, moi, gamin de 1979, cette chanson qui est sortie, on le rappelle, vous l'avez dit, en 1991. Et effectivement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se la repasse, entre guillemets, nos générations, elles symbolisent quelque chose, elles rappellent des trucs.
Absolument.
Merci beaucoup, Pierre.
Belle journée.
Belle journée.
C'était le top du top sur Radio Chablais.
Radio Chablais. Programme de nuit.
Et moi j'ai envie d'attirer votre regard à nouveau sur l'Angleterre, ce beau pays où il y a des news insolites qui nous arrivent. Hier c'était un agent de police qui faisait du télétravail
avec la touche Z.
Il avait une grosse flemme, il appuyait la touche Z quelques fois pour faire croire qu'il bossait. Et là je vous parle de moutons et d'agneaux bloqués sur un toit. Alors on a la photo qu'on va vous poster c'est un toit.
C'est quoi cette histoire?
La photo vous sera publiée sur les réseaux sociaux dans un instant. Effectivement, les pompiers ont été appelés dans la petite ville de Penrith, au nord-ouest de l'Angleterre. Ils sont arrivés, ils ont découvert sur un toit 2 moutons et 3 agneaux. Ils se sont dit, mais attends, le petit-déj, qu'est-ce qu'il y avait dedans? J'ai dû manger quelque chose qui n'allait pas. Et puis, au final, ils sont passés de l'autre côté du toit. Ils se sont rendus compte qu'en fait le toit il descendait jusqu'à 60 cm du sol. Et c'est comme ça que les moutons et les agneaux ont pu monter. Mais pourquoi sont-ils montés là, vas-tu me poser comme question?
Mais pourquoi ils sont montés sur le toit?
Eh bien parce qu'ils se sont échappés de leur parc, dans leur enclos. Et la police a été appelée en secours. Et malheureusement ils ne se sont pas très bien pris. Les moutons les ont vus arriver, ils ont pris peur. Ils sont partis en courant, ils se sont réfugiés sur le toit. Donc ils ont voulu échapper à un contrôle de police en gros.
Comme c'est drôle, ils n'avaient pas leurs papiers sur eux.
Et puis après, c'est les pompiers qui ont dû venir les chercher.
Les déloger, quoi. Oui. Bah oui, mais tout est bien qui finit bien.
C'était des animaux en cavale.
Oh là là.
Ouais, ils ont dû prendre les grands moyens pour les faire descendre de là. Après, ils ont.
Mais il y a aucun des moutons et agneaux qui
tout
ont
va,
décidé.
Tout le monde
de...
va bien. Les policiers, ils sont toujours en place, même s'ils n'ont pas réussi à rattraper des moutons et des agneaux.
T'imagines.
Les pompiers ont réussi à faire leur travail grâce à des échelles et à des perches. Et puis, l'agriculteur du coin, qui était propriétaire de ces bêtes, a pu les retrouver.
Et il a mis des enclos un peu plus. Des barrières un peu plus hautes, du coup.
Alors, ça, je sais pas. Mais c'est vrai que souvent, les animaux, dès qu'il y a un trou, hop, ils se barrent. Mais après, pour aller où, ça, ils savent pas. Ah, il y a un trou, ils partent, mais ils savent pas où ils vont. Moi, ça m'est arrivé chez moi, parce que j'habite à la campagne. J'avais des vaches à un moment donné à côté de moi. Le parc se casse. Les vaches étaient dans ma pelouse, enfin dans mon pré, dans le pré derrière. Tu fais pas trop le malin quand t'as une vache avec des cornes pour essayer de la remettre dans le parc.
Parce qu'elles étaient farouches un petit peu.
Bah, tu sais jamais, il faut faire hyper gaffe. Hein. Tu es encorné par une vache, bonjour quoi. Tu peux appeler les pompiers, mais pour t'amener à l'hôpital.
Oui. Ouais,
donc
ça serait dommage.
L'agriculteur, il est venu et puis il les a remis dedans, puis il a refixé plus fort le parc.
Ouais. Mais à part ça, c'est fou quand les animaux ils ont peur. Moi, ça me fait penser à une histoire qui s'est passée dans la Loire, ou dans un endroit qui subissait pas mal d'inondations. Apparemment, il y a des chevaux qui ont réussi à trouver refuge dans un arbre quand il y avait une inondation. Et ensuite, quand l'eau est descendue, les chevaux étaient dans l'arbre. Donc l'eau est descendue et puis les chevaux sont restés dans l'arbre. Ouais, t'imagines quand même la scène insolite.
Bah oui. Après, pour faire alors les moutons et les agneaux, c'est moins lourd quand même qu'un cheval à déplacer.
Oui, certes. Et puis après, faut faire attention parce que faut pas qu'ils sautent, faut pas qu'ils prennent peur, etc.
Ouais,
donc
c'est vrai.
Mais bon, au moins tout est bien qui finit bien. Les moutons sont retournés dans leur.
Mais quand tu vois la photo qu'on va vous poster sur les réseaux sociaux, tu te dis mais forcément quand ils sont arrivés là, les pompiers, ils ont dû se dire mais c'est quoi ce beans quoi.
Mais qu'est-ce que c'est que ce beans?
Et tout est bien dans tout qui finit bien grâce.
On va quand même poster la photo sur les réseaux sociaux. Et puis si vous avez envie de réagir à cette histoire, vous n'hésitez pas, hein, soit sur Instagram, soit sur le WhatsApp.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Speak English.
With Mélanie.
Oh my God.
Where is Brian?
Brian is in the kitchen.
Et j'avoue, je suis pas très fort en anglais. Et ça tombe bien, il y a Mélanie qui est complètement bilingue et qui vient tous les jours avec une expression anglaise qu'elle nous explique. Et puis comme ça, si vous devez partir en vacances et parler en anglais,
oui,
vous pouvez ressortir toutes ces expressions que Mélanie nous propose depuis le début de l'année.
Elle est très joyeuse, cette expression du jour. C'est « over my dead body ».
Ah bah dis donc, le pauvre corps, il est mort.
Voilà, c'est ça, sur mon cadavre en fait, ça veut dire littéralement traduit, oui.
Par-dessus mon cadavre, ça veut dire.
Par-dessus mon cadavre.
Ah ouais, super, bonne humeur. Hein.
Est-ce que tu sais dans quel contexte on utiliserait ça? Ou ce que ça voudrait dire, cette expression?
Quand t'es hyper fatigué, passez-moi dessus, laissez-moi là, je suis un poids pour vous. Non, c'est comme ça.
Ça fait un peu le monde est stone.
Non mais je suis un poids pour vous, allez-y sur moi, là je suis...
Alors non, c'est pas exactement ça. En fait, on utilise cette expression « over my dead body » pour dire qu'on n'est absolument pas d'accord. Okay. Imaginons. Alors là, faut vraiment l'imaginer. Imaginons, ta fille, elle est assez grande pour choisir son animal de compagnie. Mm-hmm. Et imaginons qu'elle s'est pris d'amour pour des insectes à huit pattes. Et elle te dit « Papa, j'aimerais avoir comme animal de compagnie une tarentule. » Bah, tu sais pas, peut-être elle a vu ça dans les dessins animés.
Je peux te dire que dès qu'elle voit une araignée, ça hurle dans la maison et c'est papa qui doit aller la chercher.
Bon, imaginons, de toute façon, ça n'a rien à voir avec ta vie de tous les jours.
Ok, bon, j'essaie de...
Donc, imaginons, elle te dit « Papa, j'aimerais avoir comme animal de compagnie une tarentule.
Ouais. »
Et toujours dans mon contexte, imaginons que toi, tu as une phobie sévère des araignées. Tu vas lui dire « No way, over my dead body. »
Donc, pourquoi on pourrait pas s'arrêter à No Way? Parce que souvent maintenant on l'entend, No Way, à chaque fois qu'il dit c'est pas question en fait.
C'est vraiment pour mettre l'emphase sur non, absolument pas quoi.
Ah, ça veut dire mais vraiment tu peux encore me demander ça pendant 5 ans, ça sera toujours
voilà, c'est
non.
Ça, c'est genre, ça, genre moi vivant, tu n'auras pas de tarentule comme animal de compagnie. C'est vraiment pour mettre l'emphase sur le No Way.
Ok.
Cette expression, elle date du XVIIIe siècle et elle fait référence au chevalier qui combat jusqu'à la mort contre quelqu'un pour protéger un trésor. Enfin, qui donne sa vie, en fait, surtout pour protéger un trésor. C'était aussi utilisé pour décrire une situation où il fallait tuer quelqu'un pour atteindre son objectif, du type « tu seras roi over my dead body », donc « une fois que je serai mort ».« Tu seras roi une fois que je serai mort ». Là encore, il y a cette notion de duel hein, jusqu'à la mort. Mais heureusement, cette expression, au fur et à mesure du temps qui passe, elle a gagné en légèreté hein, pour devenir une métaphore. Et puis, bah, on l'aura compris, hein, de nos jours, c'est clairement une hyperbole. Parce que, bah voilà, faut comprendre à travers cette expression.
Team premier degré, il faut passer votre chemin, c'est ça?
Exactement. Non, mais en fait, c'est plus dans le style je me battrai jusqu'à la mort pour éviter ça.
Okay.
Ou alors tu vas devoir me tuer avant que je n'accepte ça. Puis cette expression, on peut l'utiliser soit sur le ton humoristique, soit alors avec consternation.
Mm-hmm. Fais voir la consternation. Fais voir la consternation. Oh non, mais c'est pas possible.
La consternation que tu dis, si par exemple on te demande d'avoir un animal de compagnie, une tarentule, over my dead body.
Waouh. Mm. Quelle actrice. En plus d'être une chanteuse animatrice, qu'est-ce qu'elle joue bien.
Il est mauvais. Bon, et sinon, est-ce que tu as un pendant pour cette expression
jamais
en français?
Jamais de la vie.
Jamais de la vie.
Jamais de la vie.
Ah, c'est un peu vieux ça comme.
Jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Moi je dis toujours ça, mais jamais de la vie.
Jamais de la vie.
Ah, jamais de la vie.
Moi j'ai trouvé.
Moi vivant, jamais de la
oui,
vie.
Oui, voilà,
c'est ça. C'est moi vivant,
moi
jamais de la
vivant.
Vie.
Moi vivant. Moi vivant, jamais de la vie, ça marche.
Ça, c'est
aussi.
Vraiment pour dire t'as beau me faire plein de trucs pour essayer de me faire changer de la vie. Moi vivant, jamais de la vie.
Ouais, c'est ça. Et après, si tu pousses l'hyperbole encore plus, c'est plutôt mourir.
Ouais.
Plutôt mourir que d'avoir ça, que de
exactement.
Faire ça, etc. Il faudra me passer sur le corps. Mais bon, ça, c'est un peu plus vieux comme expression.
Mais t'es vraiment forte, hein. Waouh. Je te vois sur scène, là, en train de faire un rôle de chevalier, de princesse.
De chevalier, ça me va très bien. chien.
Waouh.
Avec le casque, avec la
visière. Jamais la radio, au bout d'un moment, t'en as marre, je pense que tu veux faire comédienne.
Hein. Oh là là, il est mauvais. Il est mauvais. Mais bon, comme ça, ça te fait une expression sous le coude, si jamais. Over my dead body.
Merci et puis, beaucoup.
Bah voilà.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Je crois que Mélanie, tu vas aimer ce moment parce que il faut le savoir, Mélanie aime beaucoup la chanteuse Ray.
Oui, à fond. Moi, j'ai découvert au tout début quand elle n'était pas encore monstre connue et j'ai tout de suite adhéré à son univers.
Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Ray, elle a d'abord percé en écrivant pour les autres et elle commence doucement ensuite à chanter. Et le premier succès qu'on a d'elle, c'est celui qu'elle a réalisé avec Jack Jones. C'était en 2017. You don't know me. Ensuite, elle a collaboré avec d'autres pointures, Martin Solveig ou encore David Guetta. Ah, 2019.
Ça sent bon l'été, tout ça quand même. Hein.
Ensuite, elle a voulu se lancer en solo parce que c'est vrai qu'elle a une voix bien à elle, une identité vocale bien ancrée.
Et puis, surtout, elle a un talent incroyable. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu l'as déjà entendu chanter du jazz.
Ça va arriver dans un instant.
Pardon.
Ça va arriver dans un instant parce que là, on est dans un autre registre. Juste pour terminer sur la bio de Ray, elle a été avec ses gros artistes, fait ses gros succès, mais elle était un petit peu à l'étroit là où elle avait signé. On voulait la cantonner seulement à de l'électro. Elle voulait faire autre chose que ça, donc elle a tout bazardé. Elle est partie en indépendante et là, énorme carton avec ce son-là. Extrait de son premier album, My 21 Century Blues. Oh purée, je sais pas comment on prononce ça.
En fait, le 21 Century, c'est pour faire un clin d'œil à l'industrie du film.
Voilà. Là, ouais, exactement. Et puis, elle a sorti ça en indépendant et ça a cartonné. Son travail est salué au Brit Awards 2024 avec 6 récompenses, un record. Donc, ouais. Ça veut dire vraiment que c'est une artiste très talentueuse qui a rencontré Mark Ronson récemment. Mark Ronson aussi, un producteur merveilleux, notamment avec Amy Winehouse.
Il collaborait beaucoup avec Amy Winehouse, ouais.
Il a aussi travaillé avec Miley Cyrus. 2018, ce sont Nothing Breaks Like Hearts. Et puis, on lui doit...
Ah bah oui.
Uptown Funk. C'était en 2014, mais il n'a pas pris une ride, ce titre déjà vieux depuis 10 ans. Hein.
Alors, c'est la marque des bons producteurs, ça.
Voilà, ils se sont rencontrés, le bon producteur, la bonne chanteuse, grâce à une marque d'horlogerie de luxe suisse qui fête cette année leurs 150 ans d'existence. Et puis cette enseigne a demandé à Mark Ronson et à Ray, parce que ce sont deux ambassadeurs de la marque, de travailler ensemble et de sortir un titre pour fêter ses 150 ans. Alors ils ont décidé de créer Suzanne, qui est en fait une ode à la famille, au patrimoine et au temps qui passe silencieusement. Suzanne, c'est l'une des ancêtres de la famille de cette
compagnie horlogère.
D'horlogère suisse. Et donc, ils ont pris Suzanne pour créer cette chanson. Ce morceau, il a été présenté lors d'une soirée prestigieuse il y a quelques temps, c'était la semaine passée. Et puis, je trouve que... Et Mark Ronson avec son talent de producteur et Ray avec son talent de chanteuse réussissent à faire un titre magnifique.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Sur Radio Chablais, place maintenant aux glaçons. Comment fabriquer vos glaçons en maison? Non, c'est les bouillottes
clairement, je me suis trompée de saison. Hein. Mais en vrai, j'ai vu passer cette info il n'y a pas longtemps, puis ça m'a un peu choquée. Donc, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Alors, on va parler de bouillotte. Je sais pas si vous faites comme moi avec vos bouillottes. Toi, tu m'as dit, Axel, que
tu
n'as jamais vraiment fait des bouillottes.
À la maison, ma maman me faisait des petites bouillottes parce que j'avais froid aux pieds en hiver. Mais je crois que depuis que je suis plus chez mes parents, j'ai pas de bouillotte sauf erreur. Donc, voilà.
D'accord.
Mais bon. Je crois, si je vais bien t'écouter, peut-être que j'en ai acheté une juste après ta chronique.
Non, mais alors les bouillottes, c'est hyper bien quand on a un peu mal quelque part, que ce soit musculaire, que ce soit pour nos règles, hein, pour nous les femmes.
Les femmes, ouais.
Et donc, du coup, les bouillottes, c'est toujours bien d'en avoir une sous le coude. Mais du coup, je ne sais pas si vous faites comme moi avec vos bouillottes, mais moi je la remplis toujours d'eau bouillante parce que bah voilà, j'ai envie qu'elle dure le plus longtemps possible, hein, genre bah toute la nuit.
Ouais.
Si je prends une bouillotte avec moi, évidemment pas quand il fait 32 degrés dehors. Mais enfin. Et grâce en
chacun
fait à
fait
cette
ce qu'il veut aussi.
Mais oui, non mais c'est ça. Si chez vous il fait frais parce que vous êtes plutôt en hauteur, tant mieux. Peut-être que ça va vous parler. Moi, grâce à la technique de mettre de l'eau bouillante, eh bien ma bouillotte, elle reste tiède jusqu'au lendemain matin. Enfin, le lendemain matin au réveil, elle est tiède. Eh bien, si vous faites ça,
c'est pas bien.
Il faut savoir que c'est tout faux.
Ah bon?
Et que cette pratique est super dangereuse.
Oh non, mais tout faux du camp.
Non mais c'est-à-dire que en fait, si t'examines la bouillotte, c'est écrit dessus il ne faut pas remplir d'eau bouillante.
Alors, c'est écrit en français, en anglais, en allemand.
Moi sur la mienne, c'est écrit en allemand et en anglais.
Ah voilà.
Je dis, ah ben c'était pas écrit en français, alors je l'ai pas vu. Mais c'est écrit sur la bouillotte, ne pas mettre de l'eau bouillante. Donc, faut pas la mettre directement depuis la bouilloire. Et je me suis dit, mais comment on fait en fait pour que la bouillotte elle reste chaude?
Mais pourquoi faut pas la mettre bouillante?
Eh ben, figure-toi que l'eau bouillante en fait, elle va faire fondre la bouillotte de l'intérieur. C'est-à-dire que la bouillotte elle va s'abîmer au fur et à mesure des utilisations.
Okay.
Et puis un beau jour ou un beau soir, hein, bam!
Elle explose.
Elle explose. Et il y a énormément d'histoires d'horreur que j'ai lues dessus, hein, des gens qui se sont brûlés au premier ou deuxième degré.
Ah ouais.
Des brûlures qui ont mis pour certains et certaines plus d'un an à guérir.
Ah ouais.
Donc voilà, puis bah voilà, en cherchant le sujet un petit peu, en creusant un peu plus, je suis tombée sur des photos et je me suis dit, oh là, un peu cher.
Ouais, okay.
Vraiment, c'est la peau est abîmée parce que bah, c'est de l'eau bouillante, quoi. Et ça, on ne sait pas. C'est un peu comme la roulette russe. On ne sait pas quand ça va exploser, quand ça va partir. C'est pour ça qu'il faut absolument ne pas utiliser de l'eau bouillante. Vous prenez l'eau du robinet, hein, l'eau chaude. Et surtout, il faut changer les bouillottes tous les 2 à 3 ans. Peut-être même moins si vous l'utilisez très 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 souvent.
Okay.
Parce que bah voilà, ça coûte pas hyper cher et puis il faut quand même regarder et investir un minimum dans de la bonne qualité. Même de la bonne qualité pour une bouillotte, c'est pas hyper cher, mais ça vaut la peine parce que bah ça évite que la bouillotte elle fonde de l'intérieur.
Mais comment on connaît les bouillottes de bonne qualité? Il y a des parce que
si on achète une bouillotte à genre 2 francs 6 sous, je pense que c'est pas de la bonne qualité.
Mais des fois bon marché est toujours trop cher, mais des fois celui qui est le plus cher n'est pas non plus de qualité.
Alors je suis pas sûre. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde toujours les avis.
Ok.
Enfin, de manière générale.
Internet.
Là, pour le coup, pour la bouillotte, moi, j'ai jamais fait ça. Mais je pense que je vais commencer à faire aussi.
Ouais, te connaissant.
Mais oui, mais parce que, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Typiquement, il faut bien faire attention de ne pas remplir la bouillotte jusqu'au bout. Il faut toujours bien enlever l'air avant de refermer le bouchon. Tout ça, c'est des pratiques qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc moi, je faisais ça, mais par contre, je mettais de l'eau bouillante. Donc sachez, si vous utilisez vos bouillottes, que ce soit maintenant ou que ce soit pour cet hiver, il ne faut pas mettre de l'eau bouillante dans vos bouillottes.
Eh ben, merci beaucoup Mélanie, parce que c'est vrai que le réflexe que j'aurais si j'en avais, c'est de mettre de l'eau bouillante. Mais là, il y a Michel qui nous dit, mais Mélanie, mettre de l'eau tiède, un peu chaude, comme un thé que vous allez boire, pas bouillante.
Oui,
voilà.
c'est ça. Et oui, parce que en fait,
Michel était plus au courant que Mélanie, mais moi, j'étais pas au courant, donc c'est bien que tu nous en aies parlé.
Mais
on peut faire l'erreur en vie assez vite. Hein.
C'est vrai, et j'ai demandé un petit peu autour de moi, et je me suis dit, peut-être que je suis la seule à faire cette bêtise. Mais non, il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui font ça.
Et avec la même idée de dire, ça faut que ça dure toute la nuit.
C'est ça.
Pour ça. Ouais.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une eau chaude à 50 degrés, donc pas une eau bouillante, hein, ça brûle la peau en 8 minutes. Une eau à 60 degrés en 7 secondes et une eau à 70 degrés en 1 seconde. Et l'eau bouillante qui sort de la bouilloire, elle est à 100 degrés. Donc vous vous rendez bien compte les brûlures,
c'est vrai, on pense pas forcément à ça.
Ouais.
Donc de l'eau tiède. Et il faut changer sa bouilloire environ chaque 2 ans.
Tous les 2-3 ans, ouais.
Peut-être plus récemment si vous l'utilisez tout le temps, en fait.
Voilà.
Parce que moi je connais des personnes, dès qu'ils commencent à faire un petit peu frisquet, c'est bouillotte obligatoire. Donc
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Voici les titres du journal.
Le Valais souhaite encourager davantage le secteur de la culture. Le Conseil d'État a proposé hier d'allouer plus de 5 millions de francs par année pour soutenir les professionnels et subventionner les écoles de musique et d'art de la scène. Les comptes 2024 de la commune de Vouvry sont dans les chiffres noirs. Plus de 3 millions de francs ont été attribués à la réserve politique budgétaire qui assouplira les investissements à venir. On ira également du côté du Conseil général de Monté qui s'est déroulé lundi soir, la dernière séance avant l'été. Et l'ouverture d'un micro-restaurant à Monté à la fin 2026 s'inscrit dans la tendance des tables d'hôtes. Un modèle qui permet aux gérants de gérer leur emploi du temps tout en gardant un confort de vie. Et en sport, la course Montreux-Les Rochers de Nez connaissent déjà sa 43e édition ce samedi. Près de 750 participants devraient s'élancer sur les 4 parcours prévus au programme.
Et pour la météo, que du beau prévu pour aujourd'hui et même pour demain. Le journal vous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour Mélanie, bonjour Axel, bonjour tout le monde. Le Valais veut davantage soutenir le monde culturel et artistique. Selon la révision de la loi présentée hier, les cursus musicaux devraient être mieux financés par le canton, jusqu'à 50% du coût total. De leur côté, les écoles des arts de la scène enseignant la danse, le théâtre ou le cirque seraient reconnues au niveau valaisan et bénéficieraient également de subventions. Une part de ce budget serait allouée à la valorisation des métiers créatifs, souvent précaires, à travers des aides aux projets artistiques. Au total, le Conseil d'État propose d'investir plus de 5 millions de francs par année pour garantir ces nouvelles contributions. Pour Alain Dubois, chef du service de la culture, il est important de mettre les moyens pour faire rayonner la culture valaisanne.
La culture innerve vraiment la société et nous partons vraiment aujourd'hui du constat que la culture mérite d'être davantage soutenue, surtout face aussi au monde dans lequel on vit, qui est anxiogène. Et finalement, la culture amène de la joie et elle permet de réenchanter le monde. Donc il nous paraît vraiment important de renforcer ces aspects-là.
La révision de la loi de la promotion de la culture doit encore être consultée et votée en septembre par le Grand Conseil, un sujet réalisé par Anthony Dacampo.
Le Conseil général de Monté s'est réuni lundi soir à la salle de la gare.
Et lors de cette ultime séance avant l'été, le plénum a validé à l'unanimité moins une abstention, une demande de cautionnement de 13,7 millions de francs en faveur du projet du terminal combiné de Monté. En réponse à un postulat et dans un but de dynamiser le marché du mercredi, la municipalité proposera 6 nouvelles mesures d'ici cet automne, dont le déplacement de l'ensemble des exposants du côté de la place Tübingen uniquement. En guise de propos liminaires, le gouvernement communal nouvellement élu a présenté également son plan de législature 2025-2028. L'exécutif souhaite maintenir les lieux de formation sur son territoire, dont l'EPIC. L'école professionnelle intercantonale de la chimie est actuellement à la recherche de murs neufs. Sa présence dans le chef-lieu du Chablais n'en est pas pour autant remise en question. Le président de la commune de Monté, Fabrice Teta.
Non, il n'est pas menacé, mais on sait que l'EPIC est à la recherche de nouveaux locaux et il y a des discussions assez intenses entre l'État du Valais et la commune de Monté. On a à bout touchant, on arrive sur un joli projet pour garder l'EPIC sur notre territoire. Tout n'est pas encore bouclé parce qu'il y a un concours qui doit être lancé par l'État du Valais. On sait que pour ces écoles, il y a la nécessité de la commune de mettre à disposition des parcelles pour que l'État du Valais puisse ensuite construire. Je crois que l'État du Valais a pleinement conscience de l'importance de l'EPIC sur le territoire montésan. Donc il y a la volonté claire à la fois de la ville et à la fois de l'État du Valais de garder le futur site de l'EPIC à proximité immédiate du site chimique et aussi de la gare CFF.
Au menu de la séance également, l'exécutif a fait voter les comptes 2024 de la ville qui indiquent un excédent de revenus d'un peu plus de 9000 francs. Enfin, il annonce une étude de l'attractivité économique, notamment du centre-ville, en réponse à un postulat venu des rangs PLR en février 2024.
L'heure des comptes a également sonné à Vouvry lundi soir.
L'assemblée primaire Tsino a accepté l'exercice 2024 qui se boucle sur un bénéfice de 230 000 francs après attribution de 3,6 millions à la réserve de politique budgétaire. Ce résultat positif pour la commune de Vouvry explique par d'exceptionnelles recettes fiscales perçues et ne pouvant pas figurer au budget 2024 qui indiquait un déficit de 833 000 francs au moment de son élaboration. La marge d'autofinancement qui reflète la capacité à financer les investissements sans recourir à l'endettement affiche plus de 5 millions de francs. Dotée de 3,6 millions de francs supplémentaires donc, cette réserve de politique budgétaire s'élève désormais à plus de 16,5 millions de francs. De quoi voir venir les investissements futurs avec plus de sérénité pour la commune de Vouvry, sa présidente Véronique Diab-Voidance.
Mais ça signifie que c'est une réserve qui va nous servir dans le futur pour nos investissements, qui sont massifs. Je pense que c'est bons exercices, il faut s'en réjouir et nous avons un plan d'investissement à 10 ans qui est énorme et je pense qu'on peut voir venir ce cycle d'investissement relativement sereinement.
Seul ombre au tableau, les 530 000 francs de découvert affichés par le service de l'eau potable, censés s'autofinancer. Une révision tarifaire est donc prévue pour 2026, annonce l'exécutif.
Un micro-restaurant gastronomique va ouvrir ses portes à la fin de l'année prochaine à Montet.
De taille réduite, 12 couverts seulement, il permettra aux gérants de dégager du temps pour rendre visite à leurs fournisseurs et pour leur vie privée bien sûr. La démarche s'inscrit aussi dans une recherche d'équilibre entre le travail, les loisirs et la famille. Aujourd'hui, les deux jours de congé sont utilisés pour faire les commandes et l'administratif, confie le chef chablaisien Jérémy Voisin, actuel patron du Vieux Manoir à Chouet et futur gérant de ce micro-resto à Montet. Cette orientation suit la tendance globale de la restauration, comme l'observe Steve Delassoie, directeur de Gastrovalet, fêtière cantonale du secteur.
On disait à l'époque, le métier d'hôtelier ou de restaurateur, bien, il fallait savoir faire 25-30 métiers. Il fallait être un peu plombier, un peu réparateur, un peu banquier aussi quelquefois. Bien évidemment, restaurateur. Et aujourd'hui, on dit, si tu sais faire 2-3 choses très bien, que tu as du plaisir à le faire, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Et puis tout le reste, tu t'entoures de personnes qui sont meilleures que toi. Et ce qu'on fait, on essaie de le faire mieux. Et puis le reste, eh bien, on s'attache les services d'une fiduciaire ou des assurances.
Avant d'ouvrir leur micro-resto à la fin 2026, Jérémy et Maël Voisin gèrent toujours le Vieux Manoir à Chouet. De nombreuses communes suisses se disent insuffisamment armées face aux cyber-risques. Selon une enquête, des outils de base comme des inventaires informatiques, des directives de sécurité claires, des plans d'urgence ou des formations font souvent défaut. Au total, près de 60% des 621 communes interrogées se considèrent comme à la traîne en matière de numérisation, indique aujourd'hui l'Association des communes suisses. L'association Ma Commune est la haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse. Une commune sur 30 déclare même avoir raté le virage informatique.
Par 34 voix contre 5, le Conseil des États a confirmé ce matin l'augmentation de la part de la redevance en faveur des radios et télévisions régionales.
De 6 à 8%, seul l'UDC s'y est opposé. Les 38 radios et TV régionales concessionnées verront le gâteau qui leur est dévolu passer de 86 à un peu plus de 110 millions de francs. Mais avec les diminutions annoncées de la redevance, les diffuseurs privés régionaux ont au moins la garantie de ne rien perdre. Pourquoi une telle générosité? Le conseiller aux États jurassiens du centre, Charles Juillard.
Parce que ça permettra à ces diffuseurs justement de se concentrer sur l'information et de garantir cette information qui fait partie du service public. Si nous défendons ces médias, c'est effectivement pour pouvoir continuer de forger l'opinion des gens avant les votations, de pouvoir les renseigner sur ce qu'il se passe au niveau des chambres fédérales de manière générale, mais aussi de leur région.
Maintenant, ça doit passer au Conseil national. Est-ce que ce sera plus dur?
Ça n'est pas encore gagné, parce qu'en effet, du côté du Conseil national, et on l'a vu ici, ceux qui s'opposent à ces modifications sont nettement plus forts au Conseil national. Et je crains qu'il faudra vraiment que ceux qui soutiennent réellement la presse régionale se mobilisent, parce qu'on voit très bien que ceux qui s'y opposent, ce sont essentiellement ceux qui disposent de leur côté, de leurs propres médias, qui n'ont pas besoin de ce soutien.
Des propos recueillis par Serge Jubin, le dossier passe ainsi au Conseil national. À l'étranger, l'Iran apprécie la volonté de la Suisse de jouer un rôle positif pour résoudre les tensions avec les USA. Mais aucune initiative ne peut fonctionner tant que Washington a une attitude négative, a affirmé aujourd'hui son ambassadeur à l'ONU à Genève. Dans ce contexte, l'Iran répondra fermement si les États-Unis entraient en guerre aux côtés d'Israël contre la République islamique. Pour le moment, nous ne pensons à aucun scénario à part celui de nous défendre, a affirmé aujourd'hui ce même ambassadeur. Les États-Unis sont complices, a accusé Ali Bahreini devant les correspondants accrédités à l'ONU à Genève. Sans eux, Israël ne peut rien faire, a-t-il ajouté. Un court mot de faute. L'Inter de Milan était tenu en échec hier par Monterrey pour son entrée au lice au Mondial des clubs. À Los Angeles, Yann Sommer et ses coéquipiers n'ont pas concrétisé leur domination.
La 43e édition de la course Montreux les Rochers de Naye se tiendra samedi et une nouveauté figure au programme.
Il s'agit d'un format typé vertical intitulé la Directissime, longue de 5,5 km pour 970 mètres de dénivelé positif. La majorité des participants devraient toutefois s'élancer sur la classique, incontournable depuis 1981. Ils seront environ 750 cette année. Les précisions du président du comité d'organisation de la manifestation, Jean-Luc Terretta.
On est en avance par rapport à l'année passée. Alors oui, depuis Covid, c'est difficile de revenir sur un rythme de croisière qui était pour nous à peu près 1100 participants. On a recommencé à 500. L'année passée, on était 700. J'imagine que cette année, on sera 750. Aujourd'hui, à date, on est largement en avance par rapport à l'année passée.
Parmi ces inscriptions, la participation de Maud Matisse, participation d'une multiple championne d'Europe, championne du monde de course de montagne, c'est toujours un plus pour une manifestation.
Oui, c'est surtout un privilège de pouvoir recevoir à nouveau Maud sur ce parcours dont elle détient le record féminin. Alors effectivement, ça permet aux participants de venir s'affronter à Maud, et ça, effectivement, c'est intéressant.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. L'interview complète de Jean-Luc Terretta est à retrouver sous l'onglet sport de notre site internet radiochablais.ch.
L'actu en continu, radiochablais.ch. Radio Chablais, programme de nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Claire Mollet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous me recevez dans un chantier. J'ai réalisé une sorte de fantasme aujourd'hui. Hein. J'ai passé les portes du chantier interdit qu'on voit souvent, enfin qu'on voit toujours hein, dans les grands chantiers. Alors on enregistre le jour de la Pentecôte, donc le chantier est désert. C'est celui de l'Alcazar à Territet, une affaire, une longue affaire, un serpent de mer, hein, que la rénovation de cette portion d'hôtel, cette portion d'histoire aussi de l'hôtellerie sur la Riviera. Vous êtes architecte. J'ai envie de vous demander tout de suite si c'est une passion première. Comment on devient architecte? Pas dans le sens les écoles qu'il faut faire, hein, mais voilà, c'est, comment vient l'idée?
Alors, j'aimais les maths, j'aimais le dessin. Mon grand-père était architecte. J'ai voulu faire les beaux-arts, mes parents m'ont dit fais un métier sérieux d'abord et après tu feras les beaux-arts. Et j'ai commencé comme ça, donc j'ai fait le cursus complet avec les PFL à Lausanne. On était à l'époque à l'avenue de l'église anglaise, au centre-ville, donc ça c'était, à mon avis, assez magnifique d'être au centre-ville. Et puis j'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir réaliser mon travail de diplôme où on choisit, en tout cas à l'époque on choisissait le travail de diplôme qu'on pouvait faire, enfin, on construisait son thème, et puis moi, je voulais faire autre chose que de l'architecture. J'étais passionnée de l'aviation et d'astronomie. Et je suis allée à l'Observatoire astronomique de Genève en disant, je veux faire mon travail de diplôme sur un observatoire astronomique pour amateurs. Moi, bon, on n'a pas besoin d'architectes, c'est que des scientifiques. Mais oui, non, j'aimerais faire ça. Et on m'a présenté Jean-Claude Pont et Georges Menet. Jean-Claude Pont, ancien professeur d'histoire des sciences à l'université de Genève et le papa de la cour Sierzinale. Donc ces personnes avaient le rêve de réaliser un observatoire pour amateurs à Saint-Luc. Wow. Et tout d'un coup, un étudiant qui leur tombe dans les mains. J'ai fait mon travail de diplôme en dehors du projet. Ils sont venus voir et puis on a pu réaliser le poste que j'avais mis à l'endroit de l'Observatoire du Soleil. Et puis j'ai pu construire l'Observatoire astronomique de Saint-Luc. Donc une aventure exceptionnelle qui a commencé pour moi.
Mais tout de suite, un bâtiment, voilà, c'est pas une villa, quoi. C'est un bâtiment institutionnel. C'est quelque chose où il faut penser un peu en dehors des carcans.
C'est une relation avec l'espace, une autre dimension, enfin, un temps astronomique. Qu'est-ce qu'on est? On fait de l'architecture. On essaye de faire des constructions en s'implantant avec une toute petite échelle, mais en travaillant avec du tectonique, enfin de la matière, de la pierre, et puis on s'intègre là et puis on essaie de voir les étoiles. Donc tout ce lien du tout petit au très grand, je pense que c'est une réflexion qu'en tant qu'architecte on doit avoir.
Oui, qui vous guide peut-être vers ces grands projets de rénovation dans lesquels vous êtes, pas que probablement, mais enfin c'est quand même un petit peu une de vos spécialités, notamment cette affaire d'Alcazar à Territet, que celle d'avoir une réflexion de plus hein, que celle simplement de la construction. Vous avez dit, moi j'aurais bien aimé faire les beaux-arts, mais on m'a dit passe ton bac d'abord, phrase type hein, bien sûr. L'architecture, ça fait partie des beaux-arts dans dans la typologie. Hein.
En France, c'est enseigné aux beaux-arts. En Suisse, c'est polytechnique. Effectivement.
Ça dénote de quelque chose.
Alors ça, je me suis jamais penchée sur l'histoire.
Helvétique.
Ça, c'est le pragmatisme helvétique, exactement.
Mmh. Pourtant, on a quelques grands noms de l'architecture dans ce pays. Le Corbusier, bien sûr, hein, dont on a les traces sur la Riviera, qui ont fait entrer, pour leur part, l'architecture dans l'art. Hein. La Suisse n'en est pas dépourvue.
Non, Le Corbusier a été une architecture très quand même avant-gardiste, Le plan libre, les poteaux, enfin, les piliers, enfin, c'est une révolution. Et
pour faire le lien avec cette affaire de Beaux-Arts, on s'inscrit dans une histoire quand on fait de l'architecture. Je pense à l'histoire de la peinture. Ben voilà, que ce soit en rébellion ou en imitation, on s'inscrit dans l'histoire de la peinture. On a des maîtres, etc. Dans l'architecture, c'est pareil pour vous ?
Bien sûr, on a des maîtres, mais on a surtout pendant les études des professeurs qui nous marquent plus que d'autres. J'ai eu un professeur Maruyama, un japonais déconstructiviste. Alors ça, c'était une découverte aussi. Et puis après, Patrick Berger, tout le contraire. Donc là, on crée enfin sa vision.
Ça veut dire quoi, déconstructiviste?
Déconstructiviste, c'est vous déconstruisez tout et vous faites des,
vous
par exemple, du Zaha Hadid.
Ou
quasiment. Mais il y a, vous voyez Zaha Hadid, c'est une architecture totalement, en fait, des espaces déconstruits, repensés par, avec des volumétries différentes.
L'architecture, ça a été longtemps, enfin en tout cas celle qui était mise en vedette, hein, l'architecture des puissants. On est ici dans un hôtel de la grande période, de la fin de la noblesse, de la puissance, de la bourgeoisie. C'était l'hôtel des riches, comme il y en a plein dans notre pays et sur la Riviera. Il y a eu un changement quand même, hein, où finalement on s'est mis à recevoir des prix. C'est le cas de Le Corbusier pour des villas. On s'est mis à réfléchir au XXe siècle à des grands bâtiments d'habitation, pas toujours heureux d'ailleurs. D'ailleurs, hein, où on faisait de l'architecture de prestige pour loger les gens, quoi.
Oui, l'économie, l'industrie a fait voir la construction dans le temps d'une autre manière. Le Corbusier est arrivé, a fait ses grandes cités d'habitation avec des grandes fenêtres. Donc, une révolution industrielle. Si on revient à l'Alcazar, qui est antérieur au Corbusier, on est aussi dans une suite avec ces grands hôtels liés à la guerre du Sonderbund.
En 1848.
Il y a tous ces anciens officiers de l'armée, ils avaient des relations. Ils avaient des connaissances, des langues. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis dans l'hôtellerie. Donc, à la fin de la guerre, la situation de la Suisse s'est stabilisée et ils ont commencé à faire ces hôtels. Donc, une révolution aussi, c'est que ça a amené l'hôtellerie, le tourisme, les Anglais qui venaient...
Voilà, les Anglais qui ont inventé le tourisme partout et notamment dans cette partie de la Suisse. Alors, voilà, on a un univers là sur la Riviera et particulièrement Montreux avec ses hauts et puis le Montreux Palace truffé de bâtiments qui avaient cette vocation-là d'un tourisme qui était le seul à l'époque d'ailleurs, hein, le tourisme des gens riches qui pouvaient se permettre de passer des longs séjours d'ailleurs. Hein, c'était pas le tourisme comme aujourd'hui. Ce bâtiment-là, tout le monde le connaît, on est passé devant, on reparlera un petit peu de l'histoire récente, hein, tragique, un peu triste, de l'abandon, des faillites, du temps qui passe, des incendies, etc. Mais c'était vraiment un fleuron. Hein. Vous m'avez montré des cartes postales de l'époque, c'était exceptionnel comme site. À deux
c'était
pas de Chillon.
Un énorme paquebot de 250 mètres avec plusieurs hôtels, dont le premier qui était le Chasseur des Alpes en 1840-41, donc avant la fin de la guerre. Ici, on est dans la partie de l'Alcazar qui a été construite en trois parties. La première étape est en 1882. Et cette partie, c'était les commerces, la galerie marchande et l'aboutissement, en fait, de ces hôtels. Donc, il y avait aussi le buffet de la gare pour prendre le train, enfin non, pardon, le funiculaire pour aller à Glion. C'était soit un lieu d'arrivée en bateau, en carrosse, lieu de départ pour aller en excursion plus haut.
Bon, avec les têtes couronnées, hein, comme on l'imagine dans les films. Sissi, impératrice, un petit peu retirée des affaires, qui y est venue. Il y a sa statue dans un jardin tout proche. Et puis, je crois, la dernière photographie, hein, vous me l'avez montrée, de Sissi vivante, qui a été assassinée à Genève. C'est
alors,
devant ce bâtiment.
Sissi aimait beaucoup cette région. Et venait à Genève, prenait le bateau jusqu'à Territet, logé dans le grand hôtel. Il y a encore, juste à côté, il y a encore sa chambre. Donc, ces journées, elle prenait le funiculaire jusqu'à Glion et montait à pied, probablement, ça, j'ai pas l'information, mais probablement, jusqu'à Caux, où il y a l'ancien grand hôtel de Caux, où là, il y a également sa chambre, sa salle de bain. C'est un centre de conférence actuellement.
Bon, il y a évidemment le poids de l'histoire. On va parler de votre métier maintenant. Quand on affronte, vous avez parlé d'un paquebot de 250 mètres, quand on affronte une rénovation comme celle-là, alors je dis le poids de l'histoire, c'est probablement pas un poids quand on aime ça, hein, mais quand même, ça délimite le champ de l'imagination, quoi.
Non.
Non.
Non. Non, mais il faut respecter, il faut être humble dans un bâtiment comme ça. Il faut surtout beaucoup d'imagination pour mettre en conformité au niveau technique un bâtiment comme ça.
Mais c'est ça, moi j'ai vu, c'est dingue, hein, parce que vous avez la façade extérieure qui est classée note 1, j'ai vu, hein, ça veut dire on peut rien toucher. À l'intérieur, alors il y a eu des dégâts, des incendies, mais il y a encore des fresques, des moulures, donc on peut pas toucher tellement non plus. Il faut beaucoup d'imagination pour refaire passer des câbles électriques ou je ne sais quoi. Enfin, en gros, on peut pas toucher grand chose, mais on doit faire plein de choses, quoi. C'est ça votre défi.
Alors tout le bâtiment est classé, pas seulement à l'inventaire, mais classé en note 1. Donc tout est protégé, pas seulement l'extérieur ou les façades, mais tous les éléments. Donc l'intervention est main dans la main avec le canton, la DGIP. Chaque chose est décidée. On a une équipe de restaurateurs, d'experts maçonnerie. On a des experts en construction métallique, des experts en ferblanterie, étanchéité, tous les niveaux. Et puis, c'est comment, après, faire fonctionner ces espaces. Donc, on a réouvert la galerie marchande qui, dans les années 50, donc, a été coupée en deux lorsqu'ils ont également exproprié une partie du trottoir et créant ce trottoir sous le bâtiment. Et donc, ils ont coupé complètement la vision qu'on avait à l'origine de cette galerie marchande.
Ça, c'est
marchande.
Quand la bagnole a pris le leadership. Hein. Il fallait agrandir la route, quoi, c'est ça?
Oui, on fait entrer l'autoroute dans les villes, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, et puis on avait une vision sur le patrimoine nettement moins haute. Mmh.
Aujourd'hui, le chantier a commencé il y a un peu moins d'une année. Hein. C'était fin de l'été, début de l'automne 2024. C'est un chantier de quelle dimension qu'on se rende compte? C'est combien d'années a priori?
Alors, c'est un chantier, en fait, qui a plusieurs chantiers en soi. Parce qu'on travaille actuellement sur la toiture, donc on est en train de refaire la toiture de la salle des fêtes. Parallèlement, on refait les dalles, on refait une partie en dalles collaborant des appartements. On refait des dalles qui étaient dans la poutraison, le solivage était en tellement mauvais état suite à nombreux dégâts d'eau. Donc là, on fait une partie de dalles en béton. On avance parallèlement dans l'ancien fitness donc, et sur les façades. Donc on a quasiment quatre chantiers parallèles. Donc, on peut avancer, vu la taille du bâtiment, sur plusieurs fronts. Donc, on espère finir 2026-27. Mais le propriétaire met son équipe pour mettre le paquet. C'est un gros chantier.
Oui, rénovation, gros chantier. Je ne vais pas vous demander des chiffres, mais enfin, c'est un...
Non, c'est un gros chantier, vu la complexité et puis les enjeux. Il a brûlé 3 fois. Dans les années 80, suite à un incendie de la salle des fêtes. 2012, de nouveau incendie de la Seine. Et 2018, l'ancien fitness, une bougie dans les archives.
Oh, j'imagine le post-it sur votre bureau. Ne pas oublier l'énorme incendie.
Oui, alors, j'ai même une formation en parallèle de spécialiste en protection incendie. Donc,
the right person at the right place. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de cette émission. On va un petit peu attaquer les difficultés hein, de votre travail de rénovation ici à l'Alcazar.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Clermont-Léon, on se retrouve dans ce chantier de l'Alcazar. On a la vue spectaculaire sur le lac, hein, qui justifie la création de cet hôtel à l'époque et sa rénovation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce lieu? J'ai lu qu'on veut retrouver sa destination première. Alors peut-être pas avec un hôtel de luxe, mais quand même avec, comme il y avait à l'époque, une galerie marchande, une salle des fêtes, un endroit vivant, quoi.
Alors, c'était l'annexe des hôtels. Malheureusement, les hôtels sont des copropriétés, c'est plus des hôtels. Mais ce bâtiment va garder sa fonction quasiment d'origine, parce que les boutiques vont devenir partiellement appartements. Donc les anciennes boutiques en duplex, en fait, on entrait depuis la rue où on voit Sissi devant la façade, on entrait dans la rue et il y avait une arrière-boutique à l'étage. Donc on va faire quelque chose de plus contemporain en faisant commercial au rez et appartement à l'étage, donc physio. Enfin, on peut imaginer plein de choses, hein. Des gens qui viennent s'établir avec l'appartement et une affectation
commerciale
ou publique au rez-de-chaussée. Donc au niveau de la galerie marchande, donc on aura accès par l'intérieur, comme on restitue cette rue intérieure dans laquelle on entrait aussi avec des chevaux, ce qu'on va plus faire.
Un vaste passage, hein, qui avait été coupé en deux sur la hauteur et que là vous restituez dans son origine.
Un énorme passage de 8 mètres de haut, donc on a réouvert cette galerie marchande par laquelle on pourra accéder au commerce depuis l'intérieur. Donc on pourra accéder d'une part au jardin d'hiver dans lequel on se trouve maintenant, qui sera un restaurant. La salle des fêtes aura une fonction d'annexe au restaurant, enfin annexe ou bar, ou en tout cas on pourra toujours organiser des mariages ou des fêtes ou des spectacles, donc en lien avec le restaurant, spectacle. Donc on est aussi dans la partie qui était affectée à l'époque par Dad Reynier, par le musée des calèches.
Oui. Dad Reynier qui a été un propriétaire longtemps, hein, au XXe siècle, jusqu'à oui, dernièrement
30
de ce
ans,
lieu.
Ouais. Il a fait même venir Grace Jones dans cette salle. Donc ça a été un haut lieu de...
Vous venez de le dire, mais on pourra y retrouver justement cette ambiance d'événements culturels possibles.
Oui, alors c'est effectivement prévu. Le but. Il pourrait même y avoir des partenariats avec Montreux. Donc tout ça, c'est à développer. On imagine un concept à l'objet au niveau de l'exploitation, parce qu'il y a un élément, vous avez vu, il n'y a pas de parking. Oui. Excessivement grand. On peut avoir des cars. Maintenant, il y a les transports publics, il y a le train. Il y a même le bateau, donc il y a un potentiel énorme.
Il faut en mettre des calèches, moi je dis. Des calèches.
Des calèches, exactement, des calèches.
Bon, on a parlé de paquebot, de bateau, c'est énorme. J'aimerais quand même un peu de détails sur la difficulté de respecter tout en modernisant. Hein. Très, très concrètement, vous arrivez à mettre aux normes un bâtiment comme celui-là. On imagine que vous n'avez pas le droit de toucher au mur. Pour entrer du câblage électrique, il faut faire une tranchée. Vous avez quand même le droit de faire ça. Vous êtes surveillé pour chaque coup de marteau. Comment ça se passe?
Alors oui, on est surveillé pour chaque coup de marteau, mais comme on a démonté une quantité de choses, que ce soit par le toit ou au niveau des dalles, vu qu'elles étaient tellement endommagées, qu'on peut repasser de la technique dans ces endroits.
Donc on tire profit finalement de ce qu'on a dû détruire pour la rénovation.
Oui, effectivement, c'est qu'il était tellement maltraité, dégradé, il a eu de nombreux dégâts d'eau, pas seulement incendie, mais des dégâts d'eau, soit suite aux pompiers, ouais. Mais aussi les toitures étaient tellement vétustes qu'il y avait des dégâts d'eau sur les murs et tout, les poutraisons suite à probablement des dégâts d'eau sanitaires étaient dans un état complètement même au niveau statique dangereux.
Ouais, c'est intéressant comme notion philosophique, ça. C'est parce qu'on doit détruire qu'on peut reconstruire, quoi. C'est parce qu'on est obligé de détruire des choses pour des raisons simplement de sécurité et de santé du bâtiment, et ben qu'on trouve des solutions pour faire passer la modernité, quoi. C'est rigolo.
Oui, c'est trouver les espaces techniques disponible pour repasser de l'électricité, par exemple, dans le jardin d'hiver. On voit, on a des fils au plafond, c'est passé par-dessus sans toucher à la vision actuelle de la salle. On va remplacer les vitrages parce qu'on entend qu'en fait, ils ne sont pas du tout acoustiques. Je dirais l'enjeu le plus difficile, c'est l'isolation thermique. C'est comment rendre un espace qui était un jardin d'hiver pas du tout chauffé, comment l'isoler sans créer des...
Oui, parce que dans une maison lambda, on peut isoler par l'extérieur, là vous n'avez pas le droit, ou par l'intérieur, et c'est délicat aussi.
Alors à l'intérieur, c'est totalement exclu. Donc comment isoler? On a même imaginé faire du flocage dans le plafond du jardin d'hiver. Ça a été... on a abandonné cette idée parce qu'on savait pas où irait le flocage et on l'aurait
retrouvé. C'est quoi du flocage juste?
C'est un soufflet de l'isolation légère, en fait. C'est comme des confettis d'isolation à quelque part. Donc, si l'enveloppe est complètement confiné, bah, le flocage il va où il faut, mais s'il y a des trous, on gère pas.
Bon, donc, c'est une aventure complexe pour vous, on l'entend bien. J'ai vu que, vous le disiez d'ailleurs, avec les services de patrimoine, l'entente est plutôt bonne, puisque les décisions se prennent en amont et en bonne entente. Je vous vois froncer les sourcils, c'est vrai ou pas?
Non,
c'est ça. Oui. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quand même la possibilité de mettre des panneaux solaires sur le toit. J'imagine que là, il y a une concession faite par le patrimoine.
Ouais, pas vraiment. C'est que le patrimoine, alors, effectivement, donc, le responsable du patrimoine est même, devenu un ami. Donc, il y a plus qu'une bonne entente vu qu'on a plusieurs chantiers en cours ensemble et avec un suivi exceptionnel. Le canton, je dois dire qu'ils ont des personnes de qualité
Le canton a eu un vrai rôle. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais en acquérant le bien, après plusieurs ventes aux enchères qui ont rien donné, le canton a été propriétaire des lieux, l'a revendu, a trouvé son avenir, en fait.
Mais le canton souhaite que ces bâtiments, en fait, nous survivent et soient mis en conformité pour avoir une nouvelle vie. Donc, ce bâtiment, avec des ajustements de capteurs solaires intégrés, de ventilation, parce qu'il faut un restaurant, vous devez avoir de la ventilation. On n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres de la salle des fêtes pour des raisons de nuisance sonore. Parce que si on a 200 personnes dans la salle des fêtes et puis les voisins à côté qui veulent dormir, donc on a des problèmes acoustiques à résoudre, que ce soit un